France Inter.
Bonsoir Claire Servageant.
Bonsoir Marine, bonsoir Marie et bonsoir Kevin Dufraisse.
Bonsoir à tous.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, la mort d'un adolescent de 15 ans.
Shamseddine, tabassé à la sortie de son collège hier à Viry-Châtillon en région parisienne par plusieurs personnes toujours en fuite. Il est mort des suites de ses blessures aujourd'hui à l'hôpital. Nous sommes sur place dans l'Essonne dès le début de ce journal.
Et les autres titres, Kevin?
L'ONU demande aux alliés d'Israël de ne plus lui vendre d'armes pour livrer sa guerre à Gaza. Comment financer l'adaptation de la France à un réchauffement climatique à plus 4 degrés? L'Institut de l'économie pour le climat tente de répondre à cette question aujourd'hui.
Et on en parle avec son directeur, Benoît Leguet, invité de ce journal.
Le concours de recrutement des professeurs se fera à Bac plus 3 et non plus à Bac plus 5. Et puis le pianiste Guillaume Bellhomme nous fait découvrir les sonates de Richard Strauss à la fin de ce journal.
Après votre journal, Kevin, ce sera une semaine en France avec la philosophe et psychanalyste Cynthia Fleury ce soir. Au téléphone sonnent les allergies cette saison avec les pollens, mais on parlera de toutes les allergies, des traitements et de la prévention. Vos questions, comme d'habitude, au 01 45 24 7000.
France Inter.
Il s'appelait Shamseddine, il avait 15 ans et il est donc mort aujourd'hui au lendemain de son passage à tabac par plusieurs personnes non loin du collège des Sablons de Viry-Châtillon en Essonne où il était scolarisé et d'où il venait de sortir de son cours de musique. Le gouvernement, par la voix de sa porte-parole Prisca Thévenot, parle, je cite, d'un crime barbare ce soir. Autre prise de parole, celle du maire de Viry-Châtillon, Jean-Marc Villain, extrêmement ému.
C'est dur de parler d'un gamin. Il y a des fous furieux qui disent que, pour X raisons, j'ai le droit d'enlever la vie. On n'a pas le droit de baisser les bras non plus. Parce qu'il faut qu'on trouve des solutions. C'est pas facile. Il y a des législateurs, il y a des ministres. Nous, on est là pour essayer de mettre en application tout ce qu'ils nous demandent de mettre. Et puis, vous voyez, c'est pas encore suffisant. On arrive encore là, à avoir un gamin qui sort de l'école et qui se fait massacrer comme ça. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc il va falloir peut-être nous réapprendre à nous, à vraiment punir, à être fort, à être ferme aussi. Parce que c'est pas pour être ferme et pour être méchant avec eux, c'est pour leur apprendre que dans la vie, il y a des choses bien et il y a des choses mal. Ces choses mal, on n'a pas le droit de les faire parce que c'est toujours au détriment de quelqu'un.
Le témoignage de Jean-Marc Villain au micro de Boris Loumagne. Et bonsoir Sarah Mansoura.
Bonsoir Kevin.
Vous êtes sur place devant le collège des Sablons. On vient d'entendre la voix serrée du maire. Cette émotion, elle est bien sûr partagée par tous ce soir à Viry-Châtillon.
Oui, et outre les larmes, les yeux rougis et les embrassades émues, ce qui frappe, ce sont les regards des parents et des élèves. Regards dans le vague, incrédules, que partagent Dylan et une dizaine de ses amis. Tous connaissaient la victime.
On était tous dehors là, on a parlé, on a pleuré, on ne sait pas comment réagir. C'était un petit... Tout le monde aimait Viry. On était au collège, nous, juste l'année dernière, tout le monde l'aimait. Et là, c'est un choc quand même de savoir qu'il est mort.
Et comme ses élèves de seconde, beaucoup sont venus spontanément devant l'établissement témoigner de leur vive émotion. Ce père de famille, par exemple, il n'en revient toujours pas.
Mon fils, à cet âge-là, donc je me mets à la place des parents et vous voyez, je parle avec beaucoup d'émotion. C'est incompréhensible.
Et le choc de la mort, mais aussi la violence de l'agression sidère tout le monde, élèves, enseignants, médiateurs que l'on croise devant l'établissement. Clarisse, la mère d'un élève de 4e, a eu, elle, du mal à échanger avec son enfant.
Je lui ai dit, mais toujours de faire attention. Et quand il sort de l'école, toujours sortir avec quelqu'un. Parce qu'on ne sait jamais. Je vous assure, une fois, il m'a fait peur, il m'a dit qu'il y a des garçons qui veulent le taper. En plus, j'ai ma fille qui sera au collège l'année prochaine. J'ai peur.
Et en ce vendredi de vacances scolaires, les abords du collège sont en train de se vider sous la pluie et avec des larmes qui coulent toujours sur quelques joues. Et surtout, toujours cette question, qui a pu déchaîner autant de violence contre cet adolescent?
Sarah Mansoura, en direct de Viry-Châtillon pour France Inter, grâce aux moyens techniques de Frédéric Kérou. Une enquête est ouverte pour assassinat et violence en réunion. Dans cette affaire, les suspects sont toujours en fuite et activement recherchés. Évidemment, la mort de Shamseddine suscite ce soir un flot de réaction politique. Marine Le Pen et Éric Ciotti pour le RN et le Parti Les Républicains parlent tous deux d'ensauvagement de la société quand le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel, appelle, je cite, à ne pas laisser la peur s'installer. On reviendra évidemment sur cette actualité dans le journal de 19h. Ce matin, avant que l'on apprenne la mort de Shamseddine, Emmanuel Macron estimait que l'école devait, je cite, rester un sanctuaire face à une forme de violence désinhibée chez les adolescents. Le président de la République qui était ce matin dans une école parisienne pour évoquer un tout autre sujet, celui de la formation des enseignants. Qui va changer ? Une fois de plus, les nouveaux enseignants du primaire comme du second degré vont passer le concours à la fin de leur licence, c'est-à-dire au bout de 3 ans d'études supérieures et pas 5. Bonsoir Justine Clos.
Bonsoir.
Une mesure censée répondre à la crise des vocations dans l'enseignement. Les syndicats sont sceptiques.
Oui, d'après le gouvernement, le concours arrive trop tard en Master 2. Et c'est ce qui décourage les lycéens à s'engager dans cette voie. La porte d'entrée donc a baissé de 2 ans. En plus de ça, de nouvelles licences de préparation au professorat des écoles seront mises en place juste après le bac. Mais les syndicats enseignants sont nombreux cet après-midi à s'interroger sur l'efficacité de ces mesures. Pour Cécile Suel du syndicat SE-UNSA, le problème c'est le manque d'attractivité du métier.
Ça ne va pas changer les modalités d'exercice même du métier, ça ne changera pas les problèmes de rémunération, ça ne va pas changer les conditions de travail, ça ne va pas changer les problèmes de mobilité géographique. Donc c'est un élément de réponse, mais clairement non, ça ne sera pas suffisant, il y a encore d'autres choses à travailler.
En avançant le concours à Bac+3, les syndicats redoutent aussi une déqualification. On risque d'avoir des professeurs moins compétents, dénonce Gwenaëlle Lepé du SNES-FSU.
Nous avons besoin, dans les métiers de l'enseignement, d'avoir un haut niveau de qualification universitaire pour répondre aux exigences du travail des élèves dans la classe. Et avoir un concours au niveau de la licence n'est vraiment pas une garantie de haute qualification disciplinaire.
De son côté, le gouvernement assure qu'avec cette réforme, les étudiants seront mieux formés qu'aujourd'hui. Ils auront désormais plus de mise en situation devant les élèves. Et du côté des rémunérations, les étudiants seront payés 1400 euros net par mois en Master 1, 1800 en Master 2, alors qu'aujourd'hui il n'était payé qu'après le concours en Master 2.
Explication signée Justine Clos.
En Ukraine, au moins 3 civils morts et 13 blessés.
Après une nouvelle frappe russe d'ampleur en plein jour, cette fois c'est la région de Zaporijjia, grande ville du sud du pays, qui a été visée. Des missiles envoyés par la Russie alors que ce matin, Kiev a affirmé avoir touché une base aérienne à Rostov en Russie, détruisant 6 avions militaires. L'actualité à l'étranger, c'est aussi la pression internationale qui s'accentue sur Israël ce soir. L'ONG World Central Kitchen demande une enquête indépendante après la mort de sept de ces travailleurs humanitaires à Gaza lundi. L'armée israélienne reconnaît une très grave erreur dans cette affaire et indique Ferrar avoir limogé les 2 responsables militaires de la frappe. Israël critiqué de toutes parts, y compris pour la première fois aujourd'hui par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui dit craindre des actes, je cite, de génocide et qui exige l'arrêt de toutes les ventes d'armes à Israël. À Genève, où siège ce conseil, la correspondance de Jérémy Lange.
28 voix pour, 6 contre et 13 abstentions, dont la France. L'adoption du texte porté par les pays de l'Organisation de la coopération islamique n'est pas une surprise en soi. Le Conseil des droits de l'homme a toujours été très actif sur la question palestinienne, trop au goût de Tel Aviv qui dénonce régulièrement les travaux de l'instance. Voter pour empêcher l'envoi d'armes à Israël, c'est voter pour le Hamas, a dit la représentante israélienne. Mais l'ampleur des destructions à Gaza est telle que peu de pays ont finalement osé voter contre le texte. Il accuse l'armée israélienne d'employer des armes explosives à large rayon d'action, c'est-à-dire sans considération pour la vie des civils. Sauf que les résolutions du Conseil des droits de l'homme ne sont pas contraignantes. Il y a donc peu de chances que l'armée israélienne soit à court de munitions demain, surtout que les États-Unis ont voté contre le texte. Mais il pourrait inciter d'autres pays, européens notamment, à suspendre leur vente d'armes, comme l'Italie, 3e fournisseur d'Israël, l'a déjà fait. À Genève, Jérémy Lange, RFI pour France Inter.
Quels sont les réseaux criminels les plus dangereux du continent? Voilà la question à laquelle Europol tente de répondre aujourd'hui. L'agence européenne de police vient de présenter une cartographie précise des gangs les plus actifs au sein de l'Union européenne. Europol a identifié le mode opératoire et les caractéristiques de 821 réseaux criminels considérés comme les plus dangereux. France Inter à Bruxelles, Angélique Boin.
25 000 suspects, 112 nationalités, des gangs qui mènent leurs activités criminelles en utilisant des structures commerciales tout à fait légales, dans l'immobilier en particulier, qui sert à blanchir de l'argent, mais aussi l'hôtellerie ou la logistique. Les boîtes de nuit sont souvent liées au trafic de drogue, au racket, au trafic d'êtres humains et d'armes, ajoute Europol. Enfin, près de 400 de ces réseaux organisés, la moitié, font du commerce de stupéfiants, en particulier en Belgique, Allemagne, Italie, Espagne et Pays-Bas. Les salariés des grands ports européens sont des cibles privilégiées de la corruption, mais ils ne sont pas seuls. Procureurs et juges sont désormais approchés, apprend-on aussi dans ce rapport édifiant. Pour Catherine Debol, chef d'Europol, sa publication envoie un signal clair aux criminels : vous ne pouvez plus vous cacher.
L'un des messages clés du rapport est que nous avons rendu l'invisible visible. Nous avions donc besoin de ces informations pour nous assurer que l'on s'attaque au bon réseau qui déstabilise l'état de droit dans l'Union européenne.
Une cartographie utile pour renforcer la collaboration entre polices européennes, mais la traque des chefs de réseau s'annonce complexe. Les plus gradés agissent souvent de l'extérieur de l'Union. Dubaï est cité comme un centre de coordination à distance. Et ceux que l'on arrête poursuivent parfois leurs activités depuis la prison. Bruxelles, Angélique Boin, France Inter.
C'est une nouvelle conséquence du phénomène climatique El Niño. 5000 écoles et collèges fermés, plus de 3,5 millions d'élèves à la maison aujourd'hui à cause de la canicule. Ça se passe aux Philippines, décision du ministère de l'Éducation. Alors que les températures dépassent largement les 40 degrés ressentis là-bas dans un pays où les classes sont surpeuplées et pas climatisées. En France, on attend des températures estivales ce week-end. On va voir ça avec Élodie Calac dans la météo juste après le journal. Nouvelle illustration du réchauffement climatique et cette question qui revient ces derniers temps. Comment va-t-on s'adapter à une France à plus de 4 degrés et combien ça coûterait? Eh bien, c'est tout l'objectif du rapport publié aujourd'hui par l'Institut de l'économie pour le climat.
On est en ligne avec son directeur. Bonsoir Benoît Le Guay.
Bonsoir.
Vous avez remis ce rapport au ministre de la Transition écologique Christophe Béchu ce matin. Alors à vous lire, on comprend qu'il y aura des choix à faire pour s'adapter à un tel réchauffement. Plus 4 degrés, ça va coûter très cher, donc on ne pourra pas tout prendre en charge. Il faudra faire des choix.
Alors il va falloir faire des choix. Alors déjà une mauvaise nouvelle pour commencer, c'est que on va pas s'adapter à coût nul. C'est-à-dire il va falloir accepter de payer pour s'adapter au changement climatique et il va falloir le faire. Mais ça va pas se faire tout seul, sans effort. Et en revanche, là où il y a des bonnes nouvelles, on peut pas donner un coût total unique à ce stade, mais des premiers ordres de grandeur. Mais il y a des bonnes nouvelles quand même. La première bonne nouvelle, c'est que les montants finaux vont dépendre de choix qui sont encore à notre main. Et je vais dire à la main de l'exécutif, à la main du gouvernement. C'est-à-dire que finalement, les choix sont encore devant nous. Et en fait, il faut se poser la question des choix que l'on fait à chaque investissement structurant. Quand on investit dans un bâtiment, dans une infrastructure, dans une route, etc., il faut se poser la question, est-ce que cet investissement est adapté au climat du futur, au climat qui se dessine devant nous? Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser toutes ces questions.
Si on prend l'exemple du rapport qui vient d'être publié sur les zones côtières bientôt inhabitables, hein, c'est un rapport qui a été publié aujourd'hui, 500 communes concernées, faudra par exemple peut-être renoncer à certaines zones habitées, à certaines routes, plutôt que de construire en zone inondable. C'est comme ça qu'on pourra peut-être faire des économies.
Alors c'est comme ça qu'on peut le comprendre. En tout cas, le recul du trait de côte, pour moi, c'est le phénomène qui est peut-être le plus facile à comprendre. Ça illustre parfaitement les questions de choix à faire. Deux stratégies très polaires que je vais vous décrire en deux secondes chacune. La première stratégie, c'est vous faites des digues pour contrer la montée du niveau de la mer et vous espérez que ça tienne. L'autre stratégie, à l'opposé, c'est ce qu'on va appeler un repli stratégique, c'est-à-dire que vous dites finalement on va reculer tout de 5, 10 kilomètres, etc., pour reculer et ne pas contrer l'avancée du niveau de la mer. Et en fait, il faut se poser cette question territoire par territoire. Qu'est-ce qu'on souhaite à tout prix conserver et à quoi on accepte de renoncer? Alors la bonne nouvelle, et c'est pour ça que le recul du trait de côte, c'est un cas d'école, c'est qu'en fait, le recul du trait de côte, l'érosion, on sait parfaitement l'anticiper. On sait à quel niveau va être le niveau de la mer dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et donc, selon l'investissement qu'on est en train de considérer, il faut se poser la question, est-ce que cet investissement est toujours pertinent dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans, disons l'horizon qui m'intéresse au regard de la durée de vie de l'investissement.
Donc il faut se poser...
Est-ce que c'est toujours pertinent, en sachant que le trait de côte va reculer, que la mer va monter, évidemment. Mais
alors,
ça, on le sait.
Bien sûr. Alors Benoît Le Guay, dernière question. Ça veut dire, si j'ai bien entendu, il faut se poser les questions pour pouvoir faire des choix politiques et pour pouvoir
planifiée. Or, en matière de planification, le Haut Conseil pour le climat, dont vous faites partie, a dit hier, c'est pas tout à fait ça. On attend un certain nombre de choses. Il y a toujours pas la loi de programmation énergie-climat, la stratégie française énergie-climat, la troisième stratégie bas carbone, etc. Il faut peut-être penser à planifier un petit peu plus rapidement.
Alors, il y a de la planification. Le secrétariat général à la planification écologique s'en charge, il y a de l'action. Mais nous, ce qui nous inquiète avec ma casquette au Conseil pour le climat, c'est de voir le retard dans l'adoption des textes réglementaires, des documents stratégiques de l'État français. Ces documents sont importants à la fois pour que l'État soit au clair avec lui-même sur ce qu'il compte faire, à la fois pour réduire les émissions, les ramener à zéro et s'adapter au changement climatique. Mais ils sont également pour mobiliser les acteurs économiques, les collectivités, le secteur privé, qu'il va falloir embarquer dans cette aventure et persuader que nous allons atteindre la neutralité carbone à horizon 2050 comme on s'y est engagé. Et par ailleurs, nous allons pouvoir nous adapter au changement climatique. Pour tous ces choix, il va falloir faire des investissements. Il va y avoir de l'argent public dedans, mais également de l'argent privé qu'il va falloir mobiliser et aller chercher. Il ne faudrait pas penser que l'intégralité de cette transition et de l'adaptation va être payée par de l'argent public. Ce ne sera tout simplement pas possible. Il faut aussi mobiliser le secteur privé afin de réussir cette transition.
Merci beaucoup Benoît Le Guay, directeur de l'Institut de l'économie pour le climat. Merci d'avoir répondu aux questions de France Inter.
L'actualité ce soir, c'est aussi là aussi de l'argent public, les budgets rabotés dans certaines grandes institutions culturelles parisiennes. Alors que le gouvernement cherche à faire des économies, moins 6 millions d'euros pour l'Opéra de Paris en 2024, 5 à la Comédie Française ou encore 3 millions d'euros en moins pour le Musée du Louvre.
Vous avez peut-être vu passer cette vidéo complotiste devenue virale sur les réseaux sociaux.
Deux personnes en voiture qui refusent de se soumettre à un contrôle de gendarmerie, affirmant être, je cite, des êtres souverains qui ne se soumettent pas à l'autorité de l'État parce qu'elle est illégitime, discours prôné par un mouvement conspirationniste très actif sur Internet. Les outils numériques, caisse de résonance de ces propos complotistes, mais peut-être aussi désormais la solution. Trois chercheurs américains ont confronté des complotistes à ChatGPT. Ils affirment dans leur étude que l'intelligence artificielle a réussi à les convaincre de changer d'avis sur certains sujets. Julien Baldacchino.
Les chercheurs ont demandé à un peu plus de 2000 personnes adhérant à des théories complotistes d'exposer à la dernière version en date de ChatGPT une théorie qui leur tenait à cœur. Un deuxième groupe contrôle était quant à lui centré sur des discussions plus banales. Le robot était programmé pour apporter des contre-arguments dans une conversation en trois questions-réponses, pas plus. Conversation au terme de laquelle l'adhésion du locuteur était à nouveau vérifiée et dans 20% des cas, la croyance dans la théorie complotiste a baissé à l'issue de la discussion. C'est peu en apparence, mais c'est un résultat important dans ce sujet où beaucoup d'études montrent la faible efficacité du fact-checking. D'autant plus important que les participants à l'étude ont à nouveau été sondés 2 mois plus tard et que chez ceux pour qui les croyances complotistes étaient en recul, ces résultats ont été confirmés. Il n'y a pas eu de retour vers ces théories. Cette étude fait écho à une autre publiée en mars qui montre que sur des sujets classiques, ChatGPT pouvait avoir une force de persuasion plus forte qu'un interlocuteur humain.
Julien Baldacchino du service numérique de France Inter. En cyclisme, encore une chute aujourd'hui et après Jonas Vingegaard, encore un favori évacué en ambulance sur le Tour du Pays Basque. Fracture de la clavicule pour l'Espagnol Mikel Landa. Pour ce qui est du sport, c'est le Français Romain Grégoire qui a remporté cette 5e étape du Tour du Pays Basque aujourd'hui. Enfin, le choix du service culture de France Inter ce soir, c'est l'album de Guillaume Bellum consacré à l'œuvre de Richard Strauss. Sauf que le pianiste n'interprète pas là les grands opéras du compositeur allemand, mais ses sonates bien plus méconnues qu'il a commencé à écrire dès l'adolescence. Stéphane Capron.
Quelle puissance dans cet allegro vivace de l'opus 3. Dans cette première sonate, Richard Strauss s'est déjà nourri de plusieurs influences. C'est ce qui a impressionné Guillaume Bellum.
C'est un Strauss qui baigne dans la musique romantique. On l'imagine écoutant du Brahms, écoutant du Schumann, même du Mendelssohn. Et on retrouve tout ça d'ailleurs dans ces musiques-là. Et peut-être qu'on écoute différemment ensuite tous ces grands opéras, toutes ces grandes œuvres symphoniques. C'est vrai que sur le piano seul, il va utiliser l'instrument d'une manière beaucoup plus intime.
Dès l'âge de 6 ans, Richard Strauss compose de petites pièces pour le piano. Les 3 sonates qui figurent sur l'album ont été achevées avant sa majorité. C'est l'œuvre d'un prodige.
On sait qu'il était grand admirateur de Mozart. Et cette précocité, ils l'ont quasiment en commun. Ça a beau être des œuvres de jeunesse, mais finalement, c'est déjà un compositeur qui a plusieurs années de bouteille derrière lui. Et on le ressent bien. L'opus 3, il est déjà d'une complexité d'écriture. Il écrit des fugues, il écrit plusieurs voix qui se superposent. Donc, il y a une forme de virtuosité comme ça aussi dans l'écriture, même d'un point de vue purement technique, quoi, de la composition.
Guillaume Bellom donne ainsi une autre image de Strauss, comme l'avait fait avant lui Glenn Gould, qui s'était aussi passionné pour ses œuvres de jeunesse.
Stéphane Capron et les œuvres pour piano de Richard Strauss, c'est donc sorti aujourd'hui sur le label Mirare, c'est signé Guillaume Bellom.
C'est très beau, merci beaucoup. C'était le journal de Kevin Dufraîche. Allez, on prend des nouvelles du temps.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Bonsoir Émilie Calac.
Bonsoir à tous.
Chaud devant, les températures sont en hausse.
Oui, les 30 degrés ont été dépassés cet après-midi dans les Pyrénées-Atlantiques. 31,8 degrés à Orthez, 29 degrés à Bordeaux, c'est 12 degrés au-dessus de la normale, 28 degrés à Tarbes, 27 à Biarritz, 25 à Clermont-Ferrand. Demain matin, déjà 10 à 15 degrés, jusqu'à 22 même à Biarritz. Et puis l'après-midi, souvent 24 à 28 degrés, 27 à Paris, Belfort, Orléans, Clermont-Ferrand, Bordeaux ou Grenoble, 30 degrés du côté de Biarritz. Ce sera moins chaud sur le nord-ouest et en Méditerranée avec 15 à 23 degrés.
Et puis du soleil au programme.
Quasiment partout, alors avec des nuages bas quand même vers le Languedoc-Roussillon et puis un ciel progressivement voilé de l'Aquitaine jusqu'au Pas-de-Calais avec de la pluie sur la Bretagne et le Cotentin. Le vent de sud soufflera partout, il sera même assez fort. Et puis dimanche, baisse des températures par l'ouest avec l'arrivée des pluies, mais il fera encore 24 à 27 degrés à l'est sous le soleil.
Merci beaucoup et à tout à l'heure, Élodie Calac de Météo France.